Bien, donc on reprend avec une thématique sur la gouvernance d'Internet. Et comme effectivement, on a pris un petit peu déjà, pas de retard, mais enfin, on n'est pas en avance. Je vais être très brève dans l'introduction et rentrer directement dans le vif des débats avec une question qui est peut-être plus rhétorique qu'autre chose, puisque si j'ai rejoint ce groupe gouvernance de l'Internet, c'est que je crois à la notion. Mais en entendant parler de blockchain, d'intelligence artificielle, etc., la première question sera un peu provocatrice. Est-ce qu'on n'est pas un peu le groupe des ringards qui sommes restés sur la gouvernance d'Internet, un truc qui date en gros du début des années 2000? Est-ce que ça a encore un sens? Pourquoi on est tous là à cette table et on a d'autres un collègue dans la salle réunis autour de cette notion de gouvernance de l'Internet? Ou est-ce qu'au contraire, on n'est pas ceux qui resteront jusqu'au bout parce que la gouvernance de l'Internet, elle inclut toutes les autres notions et que, au final, intelligence artificielle, blockchain, etc., c'est aussi derrière des enjeux de gouvernance qui sont présents. Donc je vais tout de suite vous demander aux uns et aux autres de réagir à cette petite provocation. Est-ce que c'est une notion datée? Est-ce qu'il faut parler d'une ou des gouvernances? Quels en sont les périmètres? Faut-il parler de gouvernance d'Internet ou de gouvernance du numérique? Et je vais d'abord passer la parole à Francesca Muziani. Alors Francesca, on te présente plus aujourd'hui, outre effectivement avec Mélanie que vous co-dirigez ce centre Internet et Société, que vous êtes aussi à l'initiative de ce GDR en formation. Tu consacres tes travaux depuis des années aux questions de gouvernance, hein, notamment en les voyant à travers le prisme des Science and Technology Studies. De la gouvernance de l'Internet, tu as varié aussi vers des objets qui sont les résistances numériques à la surveillance et à la censure, notamment dans l'Internet russe. Ça, c'est lié à un projet que vous avez en ce moment. Gouvernance des archives du web, ça, c'est ce qu'on a un peu mené ensemble aussi. Et donc, je passe tout de suite la parole, Francesca, pour réagir à cette notion de gouvernance de l'Internet.
Oui, alors, rebonjour à tous et à toutes. En fait, il y a pas mal de débats, c'est vrai, autour de cette question de ce que recouvre ce concept et aussi, effectivement, autour de l'Internet dans la gouvernance de l'Internet, parce que voilà, on l'a vu depuis le début de cette journée, c'est bien d'autres choses qu'on commence à mettre de plus en plus sous cette étiquette. Moi, je pense que, et ça c'est une chose qu'effectivement on a pas mal vu dans nos travaux à toutes les deux aussi, là on peut attraper la gouvernance de l'Internet en général en regardant des questions plus spécifiques et en s'amusant à reconnaître comment dans ces questions plus spécifiques, comme voilà, pour en nommer deux qu'on a abordé ensemble, la neutralité du net plutôt que la gouvernance de l'archivage du web, comment est-ce qu'il y a des dynamiques qui n'arrête pas de se reproduire, donc dans ces microcosmes de l'Internet plus spécifiques, comme par exemple des gens qui essayent de s'allier avec des dispositifs multiparties prenantes, donc ce gros mot qui veut dire qu'on vient de plein d'horizons différents et avec des valeurs et des objectifs qui peuvent largement différer, mais on essaye de se mettre à une même table pour débattre de la distribution de pouvoir sur Internet. Il y a plusieurs instruments par lesquels la gouvernance s'exerce. Donc, il y a de la technique, il y a du marché, il y a de la norme informelle qui se produit au sein de communautés. Et il y a bien sûr des formes plus classiques d'exercice du pouvoir comme la loi, comme le droit. Et voilà, donc il y a, pour n'en nommer que deux, il y a un ensemble de ces dynamiques qui se reproduisent, quel que soit l'objet spécifique dans la galaxie du numérique qu'on cherche à gouverner, voilà, avec des mécanismes de gouvernance. Et donc, voilà pour ce qui concerne le concept de gouvernance. Par rapport à la deuxième partie de l'étiquette, c'est-à-dire l'Internet, en effet, je dirais juste que le périmètre de ce concept a été au cœur de nos préoccupations, ne serait-ce que quand on a essayé de donner un nom à ce laboratoire et au GDR associé. Et donc, on a fini de façon qu'on pourrait discuter par opter pour l'effet de marque que Internet et société représentaient. Mais effectivement, le périmètre de ce qui se cache sous l'Internet, et on ne peut plus varier, on vient de le voir.
Merci Francesca. Alors si Suzanne Dumouchel avait pu être présente, et malheureusement elle a dû partir tout à l'heure, elle aurait rajouté évidemment à ces questions de gouvernance celle aussi des infrastructures de recherche. Elle est notamment ingénieure de recherche au sein de la TGIR, pardon, ou Manum, et effectivement il y a bien aussi une gouvernance des infrastructures de recherche au même titre que celle des archives du web, et tout ça effectivement on y retrouve, tu le disais très bien, des mécanismes qu'on a déjà observés. Alors je me tourne maintenant vers Anne. Anne Belon a réalisé un doctorat en sciences politiques à l'Université Paris 1 sur justement l'histoire des politiques de l'Internet, le rôle des acteurs publics dans la révolution numérique. Elle est chercheuse postdoctorante actuellement au CENS d'Orange Labs. Et Anne, tu t'intéresses aussi à ces questions à la fois de multi-stakeholderism, de parties prenantes, de régulation, etc. Alors, pour toi, la gouvernance de l'Internet et ce groupe, ça a quel sens ?
Merci Valérie. Donc, en effet, pour un politiste, en plus, la notion de gouvernance, elle est assez compliquée. Elle a fait l'objet de beaucoup de travaux critiques, en ce que peut-être elle laissait entendre qu'il y avait une disparition des États dans tous ces nouveaux processus de gouvernement. Une disparition des États qui pouvait être le résultat d'une volonté politique, et ce qu'on a pu voir d'ailleurs dans les premières années de l'Internet aussi, de construire une utopie à l'écart de l'intervention des acteurs publics, mais aussi peut-être avec des conséquences académiques, c'est-à-dire est-ce qu'il faut se désintéresser de l'État, de ce que font les acteurs publics quand on étudie la gouvernance d'Internet. Donc moi, j'ai voulu répondre à cette question dans ma thèse par un non, c'est-à-dire j'ai voulu vraiment regarder ce qu'ont fait les acteurs publics à différents moments et de quelle manière ils avaient participé, alors parfois un petit peu, parfois beaucoup plus, et ce qui va un peu dans mon sens, c'est qu'on a l'impression de plus en plus, d'ailleurs, à cette gouvernance de l'Internet. Donc du coup, elle s'articule aussi assez bien avec une conception de la gouvernance qui vient de la science politique, qui la lie à la transformation plus générale des États, que les États ont connus sous l'influence en fait, de nouvelles doctrines néo-managériales qui vont complètement transformer leur mode d'intervention dans la société. Donc avec parfois la tentation d'interpréter ça comme une réduction de l'État, mais qui est en fait un recentrement autour de certaines politiques publiques et surtout la mise en place de nouveaux dispositifs d'intervention. Et voilà, du coup, moi, ce que je regarde dans ma thèse, c'est la manière dont ces acteurs publics vont participer, mais plus encore, en fait, organiser les formes de gouvernance à travers la création, la légitimation de certaines institutions et par là aussi figer ou transformer des rapports de force existants.
Merci Anne. Donc on se voit se dessiner des périmètres et des approches disciplinaires. Alors j'ai passé la parole maintenant à Lucien Castex. Alors tu es à la fois chercheur à l'Université Sorbonne Nouvelle, mais aussi secrétaire général de l'ISOC France. Tu es membre de l'IGF Multi-Stakeholder Advisory Group de l'ONU. Donc tu es à la fois immergé dans ces enjeux de gouvernance et à la fois tu en es aussi un observateur et un chercheur. Alors qu'est-ce que tu nous dis-toi, Lucien, sur la gouvernance de l'Internet.
Alors, merci Valérie. En effet, il y a une imbrication, c'est extrêmement intéressant d'écouter Francesca, notamment décrire le modèle à l'origine, parce qu'effectivement, il y a une application pratique du modèle, il y a un certain nombre de considérations à la fois politiques et juridiques qui s'y ajoutent, et en fait, peut-être pour revenir à l'origine, effectivement, il y a les États qui se positionnent à la fois dans un jeu d'influence et dans une interpénétration entre effectivement les stakeholders, les parties prenantes de l'Internet, qui en tant que telles sont définies d'une manière assez particulière. Alors à l'origine, c'est-à-dire au sommet mondial de la société de l'information, un sommet qui a donné deux étapes à Genève en 2003 et à Tunis en 2005, il y a un agenda qui a été déterminé, l'agenda de Tunis, dans lequel, en fin de compte, on a déterminé plus ou moins ce qu'étaient les parties prenantes de l'Internet. Et j'ai noté avec intérêt que certains ont pu dire de l'Internet ou d'Internet, c'est encore l'une des questions assez fortes en termes de vocabulaire, de manière dont on doit appeler un réseau comme peut l'être Internet, et le Forum sur la gouvernance de l'Internet reste dans cette ancienne dénomination. Alors les parties prenantes, bien évidemment, il y a les gouvernements au sens le plus large de ce que l'on peut définir au niveau de l'ONU et des institutions internationales, c'est-à-dire ça va du cabinet ministériel jusqu'à la CNIL et d'autres types d'autorités qui y seraient associées. Ça va également, bien sûr, à ce qu'on pourrait appeler les acteurs privés, donc qui sont extrêmement larges également dans leur forme et dans leur façon d'exercer justement cette forme de gouvernance. Et ensuite, il y a quelque chose de beaucoup plus compliqué à évaluer que l'on rentre dans ce que l'on appelle la société civile, et dans lequel on a le monde académique, la société civile peut-être à proprement parler, et la communauté technique. Et c'est là, en rebondissant sur ce que disait Francesca, que c'est intéressant de voir que c'est une gouvernance qui a lieu à la fois au niveau technique, on pense à l'IETF, l'Internet Engineering Task Force, dans laquelle il y a un certain nombre de groupes de travail technique qui s'occupent de points extrêmement importants du fonctionnement de l'infrastructure d'Internet. On a tout un tas d'autres groupes, pour le web, le W3C, EEEE et d'autres groupes du même ordre. Mais on a aussi un certain nombre d'arènes politiques, parapolitiques, comme le Multi-Stakeholder Advisory Group de l'ONU, ou encore certains groupes de travail de l'UNESCO, de l'OCDE, de l'Organisation internationale des télécommunications, qui, de la même manière, et au niveau des organisations internationales, se positionnent également. Donc, quelque part, la volonté d'avoir une approche multipartie prenante, et on l'a vu en début de semaine, avec l'Assemblée générale des Nations unies et la manière notamment dont l'appel de Christchurch, dont vous vous rappelez sans doute suite aux attentats de Christchurch, a donné lieu à la création d'une structure théodule du même ordre multipartite ou multipartie prenante, eh bien, il y a une volonté quelque part de transversalité de l'approche d'Internet. Ce que tu disais, Valérie, en introduction, c'est-à-dire qu'Internet pénètre un certain nombre d'autres sphères, pose d'autres questions, en particulier les questions qui touchent à l'intelligence artificielle, au contenu et à la régulation des contenus, ou encore même, bien sûr, à la souveraineté numérique. Et de là, en fin de compte, on va intégrer un modèle de gouvernance qui est propre, à l'origine en tous les cas à Internet, à tout un tas d'autres objets numériques, et passer quelque part d'une gouvernance de l'Internet à une gouvernance du numérique. Et en un mot, en France, on le voit assez bien, avec par exemple un texte comme la proposition de loi Avia qui est en cours de débat actuellement au Sénat. On le voit également bien avec les différentes réglementations en cours de discussion sur l'audiovisuel. Il y a un rapprochement infrastructure et contenu qui pose un certain nombre de questions de neutralité dont on pourra parler par ailleurs.
Merci, mais tout ça me donne envie de réagir en vous demandant comment on analyse tout ça en tant que chercheur. C'est-à-dire là, vous posez un peu des questions sur... Il y a plein d'acteurs institutionnels, sociétés civiles, etc., des négociations, des controverses. Comment on fait? Quelles sont les méthodes? Quelles sont les approches à cette gouvernance d'Internet? Alors là, je vais me tourner vers Guillaume Cyr, qui n'a pas encore eu la parole, qui est maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulousain Capitole, membre de l'Institut de droit de l'espace des territoires, de la culture et de la communication. Tu t'es notamment beaucoup intéressé aux moteurs de recherche, aux industries culturelles et à la gouvernance, alors plutôt tournée vers le côté web. Et alors, comment on approche tout ça, cette gouvernance?
Bon, évidemment, il y a de multiples façons de faire, mais moi, je vais décrire du point de vue très concret mon approche et ma méthode en particulier, mais qui, effectivement, à mon avis, même si c'était particulièrement intéressant en information et communication, peut être une méthode qui peut tout à fait intéresser d'autres champs des sciences sociales et qui donne concrètement un point au moins d'entrée sur ces sujets de gouvernance, qui est donc une approche par le standard. Évidemment, des organes de gouvernance comme l'IETF dont Lucien vient de parler, l'Internet Engineering Task Force, ou pour le web, le W3C qui était à l'IETF au départ, puis qui s'est décroché assez rapidement pour des questions justement de procédures, qui avaient besoin de procédures plus souples, vous le savez, créer des standards, c'est-à-dire des recommandations qui ne sont pas du point de vue juridique des normes, c'est-à-dire que ça ne crée pas nécessairement de l'obligation, mais qui permettent d'organiser après la manière même dont l'information est mise en forme et mise en circulation. Et pour s'intéresser à ces standards, qui du coup sont des documents d'abord édités sous forme de working draft, first public working draft, et qui ensuite vont être petit à petit stabilisés comme des cadres de référence communs aux acteurs. Moi, j'ai une triple approche, donc trois manières de faire en même temps, hein, c'est pas chronologiquement séparé. Mais d'une part, j'observe évidemment le standard, puisque en général, on a accès aux différentes versions. Et donc, en comparant les versions une à une, on voit très bien ce qui a frotté, ce qui a changé, ce qui est venu être reformulé, ce qui a été supprimé, ce qui est venu être ajouté. Et on peut vraiment, dans le temps, représenter le standard et le voir bouger, et donc voir les zones, évidemment, de friction et de tension. En même temps, je regarde les discussions. Et les discussions, elles se passent de trois manières différentes. Évidemment, par mailing list, qui sont archivées, et qui sont très intéressantes à suivre, parce que les gens se répondent quasiment en direct. Et on peut voir, et souvent avec des signatures qui donnent, on sait s'ils travaillent pour des gouvernements, des associations, des entreprises. Et évidemment, il y a toute une argumentation qui a lieu, parce qu'ils savent que c'est archivé en plus, donc c'est très riche, mais ça ne suffit pas. Je participe aussi, donc en tant qu'observateur, on peut être invité, c'est assez facile de se faire inviter, mais on ne peut pas parler, mais on est observateur, aux discussions. Et là, on voit les gens à la fois... officiellement, c'est-à-dire le moment où ils discutent et où ils savent que c'est enregistré, mais aussi on les suit dans les moments de déjeuner, etc. Et on voit quand Adobe parle avec Google, quand au milieu, on voit les acteurs parler, avancer leurs arguments, ne pas parler, justement refuser de répondre. Tout ça est très poli, mais bon, ils sont quand même pas du tout d'accord. Et en même temps qu'a lieu cette conversation, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que c'est important d'être là sur place, il y a un chat en ligne. À l'IETF, au W3C, ils procèdent comme ça, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui prend les minutes, mais les gens interviennent dans le chat en posant des questions ou en réagissant à ce que machin est en train de dire. Il y a truc qui réagit en disant « je ne suis pas du tout d'accord », mais qui ne prend pas forcément la parole. Donc il y a vraiment deux niveaux en direct de conversation, et quand on regarde le versionning et la conversation en même temps, c'est très intéressant d'aller voir justement comment ça a lieu concrètement. Et finalement, je crois beaucoup au troisième volet aussi, c'est-à-dire que tout ça n'est possible qu'en l'expérimentant aussi par soi-même, c'est-à-dire en essayant le plus possible, alors selon les compétences techniques qu'on peut avoir, mais en essayer d'en acquérir suffisamment, pour soi-même pratiquer. Tous ces standards ont des objectifs concrets, techniques, de faisabilité, de créer un fichier sous un format particulier. Et pour pouvoir et interroger les acteurs, parler avec eux, les entendre, comprendre ce qui se dit, comprendre ce qui se joue et comprendre les versions du standard, c'est important soi-même, un minimum, d'essayer de pratiquer ce standard-là. Et notamment quand on a des standards concurrents, par exemple, d'essayer, qui sont censés tous les deux faire la même chose. Par exemple, sur le web sémantique, on a les microformats et les microdonnées. Les deux sont censés permettre une sémantisation de l'information, une séquentialisation de l'information. Mais c'est important de... Comme les deux sont censés faire la même chose, évidemment, les deux ne disent pas la même chose. Donc, à la fin, c'est le même résultat dans la fonction, mais malgré tout, ça n'a pas le même sens, c'est pas la même organisation. Et en le pratiquant soi-même, on se rend bien compte de ces différences-là de concrètes, ce qui permet de donner un éclairage supplémentaire aux discussions qu'on a suivies, aux versions qu'on a généalogisées.
Merci Guillaume. Alors, on va continuer un peu ce tour de table des approches et des méthodes et donc de ces approches à la gouvernance d'Internet avec Julien Rossi. Alors Julien, outre que c'est toi qui préside, organise, enfin, je ne sais pas quel est le titre officiel, mais notre groupe, et on t'en remercie. Tu es doctorant à l'UTC, à terre au département de communication de Rennes 2. Tes recherches portent sur les politiques publiques de protection des données à caractère personnel, et notamment tu t'intéresses aux interactions entre les arènes de standardisation technopolitique, exemple W3C Tracking Protection Working Group, et les politiques publiques. Alors, quelles sont tes approches pour faire tout ça?
Guillaume a déjà dit beaucoup de choses en fait, mais il y a beaucoup de mes approches qui sont finalement assez similaires aux siennes, donc je vais poursuivre mais en construisant sur aussi ce qu'il a dit. Donc j'ai étudié ou j'ai approché ces arènes de standardisation technopolitique où se discutent des standards techniques, mais qui en fait visent à traduire des objectifs politiques comme la protection de la vie privée. Mais il y en a d'autres. Il y a au W3C, il y a aussi un groupe de travail sur l'accessibilité, par exemple, ou sur l'internationalisation. Enfin, donc j'ai approché ces lieux de standardisation, ces groupes de travail de standardisation sous l'angle de l'étude des instruments d'action publique en fait qui produisaient. Je dis bien action publique pour pas dire politique publique, mais malgré tout, ces formes d'action publique, elles ont des points communs avec ces politiques publiques, et les standards du web ont des points communs avec la loi, avec le droit. C'est aussi ce qu'exprime par exemple Joël Heidenberg quand il parle de Lex Informatica. C'est pas tout à fait la même chose que ce que, parce qu'on dit aussi beaucoup code is law, le code et les standards techniques, c'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, mais dans les théories de Joël Heidenberg, les standards du web, les standards d'internet sont comparés à des formes de droit. Alors pourquoi? Ben parce que c'est rédiger les standards du web. Alors je simplifie un peu parce que ça pourrait se discuter, mais globalement servent à décrire un ordre idéal des choses. Les standards qui décrivent l'IPv6 ne décrivent toujours pas forcément l'état actuel du fonctionnement d'Internet. Donc c'est pas là pour décrire ce qui est, c'est là pour décrire ce qui doit être, comme le droit, et ça a des caractéristiques de performativité. Ça inclut une description de mesures concrètes qui doivent, au moins en théorie, mettre en œuvre des intérêts ou des objectifs de système de conviction des acteurs qui l'ont rédigé, qui le débattent. Alors la tentation, puisque c'est un instrument d'action publique et que l'action publique et les politiques publiques, ça a des caractéristiques proches, qu'on est sur des textes qui ressemblent un peu à des textes de droit, même parfois dans leur rhétorique, ce serait d'utiliser, prendre un copier-coller de méthodes d'analyse des politiques publiques, et donc par exemple prendre des méthodes qui cherchent à analyser des controverses à travers de... Enfin, on essaye de voir quelles sont les coalitions de causes qui se confrontent. Et soit coalitions de causes sont soudées par des systèmes de conviction. Donc en cartographiant les coalitions de causes, on cartographie les systèmes de conviction qui s'opposent. Le problème, c'est qu'on peut passer à côté d'une matérialité très différente de ces arènes par rapport à la matérialité des arènes politico-institutionnelles classiques type Assemblée nationale, etc. Par exemple, pour une chose toute bête, et j'ai pas le temps de rentrer dans plein de détails, Guillaume a déjà parlé de la question des chats. Évidemment, dans l'Assemblée nationale, il n'y a pas de chat IRC en même temps que les gens sont en train de débattre. Ce serait intéressant d'ailleurs de faire cette expérience, mais pour l'instant c'est pas le cas. Une chose toute bête, mais comme le principe c'est rough consensus and running code, il faut qu'il y ait un consensus pour que le standard passe les différentes étapes formelles d'adoption du standard. Bah, tout ce qui peut mettre en cause, tout dissensus peut faire dérailler entièrement le processus de standardisation. Donc à moins qu'il y ait un dissensus très fort, en général, on a des discussions vraiment très très polies, très policées, on essaie de ne pas trop faire apparaître quand il y a dissensus. Et en fait, quand on lit les comptes rendus, bah, le jeu, c'est un peu de les masquer, ces dissensus. Donc comment est-ce qu'on les analyse? En plus, il y a une question de... C'est assez ouvert, il y a plein de mailing lists, et c'est génial les mailing lists. Mais moi, par exemple, dans mon corpus, j'avais dans les 400 000 emails téléchargés, donc ça fait beaucoup à lire quand même à la main. Donc comment on fait? Et alors là, bon, évidemment, on peut utiliser peut-être des scripts qui vont essayer de repérer des mots-clés. Alors il y a par exemple quelqu'un qui aussi participe, qui est un chercheur en informatique, qui participe à cette standardisation, qui s'appelle Nicolas Dotti, qui a étudié dans ces masses d'emails comment circulent un certain nombre de termes qui sont un peu signifiants, comme privacy, security, etc., dans les standards de l'IETF. Ça permet de focaliser son attention sur des moments où, sur certaines listes de discussion, on voit un pic apparaître autour de privacy, par exemple. On se dit, tiens, là, ça va être intéressant de lire les mails juste sur tel mois, par exemple. Et une autre façon on peut aussi, évidemment, faire des entretiens avec les acteurs, cartographier, leur demander un certain nombre de choses. Avec aussi, et je vais finir là-dessus parce que sinon je vais être trop long, aussi cette question très importante et sur laquelle je rejoins entièrement Guillaume, qui est cette question de l'accès aux coulisses qui nécessite en fait une implication à la fois chronophage et coûteuse d'un point de vue matériel et financier, même de cette implication dans ces arènes de standardisation. Donc par exemple, quand on lit les comptes rendus basés sur la discussion IRC en chat, en fait, qui se déroule en parallèle de la discussion à l'oral, il ne faudrait surtout pas croire que c'est une retranscription fidèle de ce qui se dit à l'oral. Pour un tas de raisons, ça ne l'est pas. Et donc, si on n'est pas dans la salle en train d'écouter ce qui se dit, de lire ce qui se lit, et ensuite peut-être même d'écouter ce qui se dit pendant la pause déjeuner en off et qui peut contenir plus d'informations, on est perdu. Et donc, c'est important de croiser toutes ces approches pour arriver à suivre ces, ces processus de standardisation technique. Bon, j'arrête là parce que sinon ce sera trop long.
C'est déjà pas mal du tout. Et en tout cas, il y a des choses qui doivent faire écho chez Anne, notamment la mention des entretiens oraux. Tu vas nous dire. Julien a parlé d'action publique, c'est aussi évidemment ce que tu cherches à penser. Toi, les coulisses, tu les as aussi vues hein, en regardant les coulisses du passé. Alors, quelles ont été tes approches dans cette...
Alors, moi, je vais aussi revenir sur l'enjeu de cartographier tous ces acteurs, parce que c'est vrai que pour comprendre la gouvernance, il est d'abord important de les identifier, peut-être aussi de les compter, de voir déjà se dessiner des rapports de force en fonction de... la présence plus ou moins grande de certains acteurs dans les instances de gouvernance. Mais le dernier enjeu, qui était plus compliqué pour moi, c'est de cartographier ces espaces. Puisque ces espaces, en fait, enfin, les institutions de gouvernance, elles sont à cheval entre différentes communautés qui ne fonctionnent pas du tout de la même manière, qui ont leurs propres ressources, alors soit des ressources techniques informatiques ou techniques juridiques, mais parfois des ressources économiques, enfin, des ressources très différentes. Pas toujours les mêmes ethos, ni les mêmes intérêts, les mêmes stratégies. Et donc, pour cartographier tout ça, en fait, les outils un peu classiques de ma discipline n'étaient pas voilà, pour positionner les gens et voir des rapports de force, parce que vous voyez où je vais en venir. En gros, les institutions de gouvernance n'étaient pas des champs, donc il fallait trouver un peu d'autres outils. Donc une piste que j'ai suggérée dans mes études passées et puis que j'essaie de développer aujourd'hui autour de la gouvernance plus de l'intelligence artificielle, c'est les outils du réseau. En fait, de penser ces lieux de la gouvernance comme des réseaux plus ou moins denses avec des acteurs qui sont plus ou moins centraux par leur capacité à être présents dans les différents lieux où se discutent soit des standards techniques, soit des standards juridiques de régulation. Et là, on va dire, la théorie des réseaux nous donne des outils pour mesurer à chaque fois cette centralité et aussi voir se former des groupes homogènes à certains moments et de les voir exploser à d'autres moments. Donc je pense, et c'est tout à fait ouvert à la discussion, mais que ça peut être un outil pertinent pour cartographier ces acteurs et surtout voir évoluer en fait la dynamique de cette gouvernance de l'Internet qui devient de plus en plus une gouvernance du numérique.
Alors, cartographie des réseaux, cartographie des controverses, on voit des pistes se dessiner, on en voit d'autres, hein, des outils évidemment d'analyse, on a parlé de scripts, etc., donc, qui peuvent être intéressants, les entretiens oraux, la fréquentation de ces arènes. Qu'en pense la chercheuse qui a, elle aussi, ce regard Science and Technology Studies et qui l'a notamment utilisé sur les questions de gouvernance?
Oui, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. J'en rajouterai une qui est peut-être utile pour regarder ce que moi je regarde principalement, c'est-à-dire les dispositifs techniques comme instruments de gouvernance, des choses avec lesquelles on exerce du pouvoir. Et donc, c'est la panne. En fait, c'est le moment où les choses coincent. C'est des moments très intéressants pour ceux qui font de la sociologie de l'innovation, de la sociologie des techniques, parce qu'en général, c'est les moments où se mettent à découvert des choses qui sont dans les fameuses coulisses dont on vient de parler. Quand les choses ne vont pas comme on s'y attendrait ou quand il y a un petit couac ou quelque chose qui coince, c'est vraiment le moment où on aime aller voir qui sont les acteurs impliqués, quelles sont les solutions de réplique que ces acteurs envisagent, peut-être l'apparition de nouveaux acteurs qui n'étaient pas encore impliqués dans celle qui est généralement du coup une controverse. Quand quelque chose ne va pas, on n'est généralement pas d'accord sur comment on peut le résoudre. Et donc c'est comme outil méthodologique que je rajouterai au paquet, c'est ça. On aime regarder où les choses sont compliquées. Et on l'a fait par exemple avec Cécile Miadel sur le système Bitcoin, observant quand est-ce qu'un problème technique a donné lieu à deux blockchains différentes parmi lesquelles il a fallu choisir une pour se remettre dans l'ordre, par exemple. Voilà, ça c'était un très bon exemple de comment on regarde ça.
Donc tu vas plus loin que Guillaume qui lui parlait des frictions. On pense aussi au travail de Paul Edwards et d'autres avec ces questions de friction. Toi, c'est quand c'est vraiment ça coince. Quoi. Faut que on va. Mais pas que. Mais c'est des moments. Effectivement, c'est des moments révélateurs. Et tu as commencé à donner effectivement également des exemples de recherches très concrètes hein, sur ces questions de gouvernance en évoquant celle du Bitcoin. Alors je vais me tourner vers vous maintenant pour vous demander justement un exemple soit de recherche que vous avez mené sur cette question de gouvernance d'Internet qui vous paraît, si ce n'est exemplaire, mais du moins marquante dans vos recherches, soit un vœu de recherche à venir qu'on va peut-être pouvoir mener ensemble dans ce groupe de travail. Alors Lucien, je me tourne d'abord vers toi. Projet passé ou envie, quel cas d'étude tu peux nous présenter sur la gouvernance d'Internet ?
Alors merci Valérie. En effet, il y a beaucoup de cas d'étude. Je vais essayer de me concentrer sur deux très rapidement. Tout d'abord, j'en reviens à la gouvernance des archives. Sur la gouvernance des archives, quelque part des archives du web, et quelque part ce qui est à la frontière entre donc ces archives du web et la gouvernance de l'Internet, j'ai pu travailler avec l'INA et avec un certain nombre de partenaires techniques, juridiques et bien sûr en SHS, à la manière dont justement ce choix était fait dans les archives, sur les méthodologies, sur les standards, la forme de ces standards et donc les formes de l'archivage et de la conservation d'un patrimoine donc numérisé. La BNF, l'INA, évidemment, ont un dépôt légal l'une et l'autre. En France, c'est extrêmement intéressant de voir qu'il y a un dépôt légal du web BNF, il y a un dépôt légal du web INA, et qu'en vertu des différents textes qui s'appliquent, chacun a un périmètre plus ou moins fixé, si j'ose dire, de ce qu'il est censé pouvoir conserver. Et après, cela va dépendre de chaque pays, donc il y a un certain nombre de textes au niveau de l'Union européenne, ou une absence de texte dans d'autres, qui font que quelque part, on a une mémoire du web qui disparaît, et avec cette mémoire du web qui disparaît, un certain nombre des étapes de la constitution, à la fois institutionnelle et technique, de ce web. Et c'est extrêmement intéressant de voir ce que disait Julien, parce qu'effectivement, avec un certain nombre de listes de discussions, d'archives que l'on peut encore trouver, eh bien, on peut reconstituer, peu ou prou, un certain nombre de ces étapes. Le deuxième point, très rapidement, qui est plus une étape en cours, dans la suite de ce que je disais tout à l'heure, gouvernance multipartite, moi j'ai pu observer avec intérêt tout ce qui touche à la régulation des contenus. Donc quand je dis régulation des contenus, grosso modo, je vous ai cité la proposition de loi Avia sur la haine en ligne, mais on a eu en France une autre proposition de loi qui est devenue loi, portée notamment par Richard Ferrand sur la désinformation, notamment dans le cadre de périodes électorales. Ça pose une question globale de savoir dans quelle mesure est-ce que l'on peut contrôler ce qui est diffusé, l'accès à l'information sur Internet et au-delà. Même, ça pose des questions de neutralité et ça pose des questions en termes d'acteurs qui ont ou qui n'ont pas la main sur justement ces outils de contrôle. Et pour rebondir avec ce qui a pu être évoqué ce matin et par ailleurs, j'imagine, hier dans les groupes de travail, eh bien évidemment, ça pose la question des outils automatisés qui peuvent être utilisés. Je me souviens de discussions, on va dire, avec un certain nombre d'acteurs techniques, notamment de grosses entreprises de l'Internet qui évoquaient l'impossibilité, même pour 50 000 personnes à temps plein, de contrôler ne serait-ce qu'une très petite partie en français de YouTube quant à la capacité d'identifier des contenus qu'ils appelaient des contenus dangereux, donc c'est plus large qu'haineux, c'est haineux, fake news et tout un tas d'autres choses, terrorisme. Et dès lors, la nécessité de pré-identifier les contenus à l'aide d'outils automatisés. Lesquels outils automatisés, bien sûr, posent des questions de gouvernance, de transparence et d'auditabilité au niveau global. Et évidemment, qui pose, in fine, la question des acteurs qui, dans ces cadres-là, sont en mesure de contrôler. Est-ce que ce sont des États ? Est-ce que ce sont de très grosses entreprises ? Et le cas échéant, quels sont les modes de gouvernance ? Je conclurai juste en disant que lundi dernier, donc cette semaine, juste avant l'Assemblée générale des Nations Unies, on va dire qu'un groupe qui s'appelle le GIFCT, alors j'avoue que je ne sais absolument pas comment ça se dit en français, mais c'est Global Internet Forum on Counterterrorism, a été remis à l'ordre du jour par justement certains acteurs, en l'occurrence Twitter, Google, Facebook et quelques autres. Les gouvernements sont associés, bien sûr. Justement, dans le but de créer une structure, je ne te dirais pas une structure théodule, on verra ce qu'il en est, mais une structure en tous les cas qui a la main sur la manière dont sont modérés les contenus terroristes et dans quelle mesure une telle structure, justement, pose des questions en termes de gouvernance.
Merci Lucien, et notamment merci d'avoir cité ces archives du web qui sont, enfin, qui nous tiennent à cœur aussi avec Francesca. C'est dans un de tes numéros, enfin un numéro que tu avais dirigé d'ailleurs, Guillaume, qu'on avait fait cet article Negotiating the Web of the Past, et on montrait effectivement à quel point c'était un microcosme de questions plus générales de gouvernance d'Internet qui sont passionnantes. Et merci aussi Lucien de nous ouvrir effectivement sur ces évolutions, cet élargissement aussi à cette question par exemple des contenus terroristes, qui a une gouvernance qui aujourd'hui est aussi une gouvernance qui se pose la question des contenus et pas seulement bien sûr hein, des infrastructures, et c'est pas neuf hein, bien sûr, mais ça ne fait que s'accentuer. Alors Guillaume, de ton côté, puisque tu testes des standards, tu rencontres les acteurs, tu observes leur déjeuner, c'est pour observer quoi ? Quels sont, toi, tes objets, tes terrains ?
Mais en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi, je suis arrivé par là. Au départ, je travaillais sur les moteurs de recherche, et le moteur de recherche en particulier, dont on ne dit pas le nom. Donc d'abord, j'avais fait un terrain. Au début, je me suis intéressé aux standards et aux standards mis en concurrence parfois de contrôle des modalités de circulation. Notamment, donc j'ai fait un terrain sur le protocole d'exclusion robot.txt qui permet de communiquer avec les moteurs et qui avait un petit concurrent qui est resté lettre morte, mais l'échec en sociologie des techniques est intéressant à étudier justement, qui s'appelait Automated Content Access Protocol, qui était quand même supporté par 27 000 signataires du protocole et qui n'a jamais fonctionné. Et donc je me suis intéressé à ça, protocole d'exclusion versus protocole d'inclusion. Après, j'ai continué en faisant un terrain sur l'Encrypted Media Extensions, qui est un mode de cryptage des vidéos et qui a fait beaucoup parler au W3C, parce que c'est à cause de la discussion le concernant que l'Electronic Frontier Foundation a claqué la porte de l'arène. Donc j'ai fait un long terrain là-dessus qui m'a beaucoup intéressé. Puis j'ai fait un petit passage par le web sémantique, et notamment la concurrence entre microformat, micro-données, avec le RDF au milieu, le WattWidgi d'un côté, le W3C de l'autre. Je passe un peu vite, parce que ce n'est pas celui-là que j'ai envie de détailler. Tout ça, et surtout, tout ça est publié, donc je trouve que ça intéresserait, évidemment, je fais un peu la pub. Mais là, je suis sur un nouveau terrain, le EPUB, puisque le format EPUB a d'abord été développé par une arène créée par les industriels du monde de l'édition, donc qui culturellement est assez différente de ces arènes-là, qui s'appelait International Digital Publishing Forum, essentiellement regroupant des éditeurs, y compris des éditeurs scientifiques, et qui a fusionné, il y a presque 2 ans maintenant, avec le World Wide Web Consortium. Et donc là, tout d'un coup, on a 2 arènes de normalisation qui ont des cultures très différentes, des procédures très différentes, qui, pour une fois, au lieu de se disputer, ont essayé de fusionner. Mais alors, ça crée plein de problèmes, parce qu'ils essaient de travailler ensemble, sur l'objet livre, en se demandant comment garder des frontières, une pagination, au sein d'un dossier zip, qui donc est un peu plus intelligent que juste un PDF, et puis en format ouvert, contrairement à un PDF, même si Adobe est dans le groupe, évidemment, de Publishing Group, ça s'appelle au W3C, et essaye de maintenir... parce que quand on parle de livre numérique, on a l'impression que ça existe déjà et que c'est stabilisé. En fait, est-ce qu'un livre vraiment peut être numérique ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Est-ce qu'on garde les mêmes formats, justement, de lecture, le contrôle par l'éditeur sur la police d'écriture ? Qu'est-ce que ça devient dans un navigateur ? L'enjeu, là, c'est de maintenir le document qu'on appelle livre dans l'univers numérique, en le rendant insécable. Ils appellent ça « fixed layout ». Donc il y a tout un tas de discussions qui engagent en plus économiquement, juridiquement, des trucs comme la loi du prix unique du livre. Donc il faut garder, pour pouvoir appliquer cette loi pour le livre numérique, il faut pouvoir garder comme ça un objet qu'on maintient en tant que tel dans sa mise en circulation et dans son économie. Et du coup, ça m'intéresse. Là, en ce moment, je travaille sur ça en particulier. Voilà, affaire à suivre.
Eh ben, on la suivra en tout cas avec grand intérêt. Qu'est-ce qu'il y a à suivre du côté de Julien ? Ou à venir.
Alors, je vais être assez rapide sur ce que j'ai fait et mes projets, parce que j'aimerais dire 2 mots aussi de publicité pour le groupe de travail gouvernance d'Internet, et peut-être susciter des vocations pour des gens qui souhaiteraient se joindre à nos travaux. Du coup, pour ma part, j'ai En m'intéressant au petit public de protection des données à caractère personnel, je me suis aussi intéressé à la façon dont, dont elles interagissaient avec des arènes de standardisation technopolitique. Et je m'étais notamment intéressé à l'histoire du protocole, enfin du... Oui, de la proposition de standard Do Not Track, qui est encore dans certains navigateurs, mais ça, c'est de plus en plus supprimé, une façon d'exprimer des préférences en matière de vie privée qui peuvent être lues et interprétées par le serveur web auquel on se connecte, qui, alors quand je m'y suis intéressé, n'était pas encore un échec, et est devenu un échec. Donc ce serait l'occasion d'y revenir, parce que j'ai terminé mon terrain là-dessus, enfin je m'en suis un peu retiré, au moment où c'était en train d'être où l'échec était en train d'être officialisé. Ouais, donc ça, ce sera. Donc il manque un peu la période à étudier. C'est ce moment où c'est passé d'un projet laborieux qui avance pas trop au moment où c'est devenu un projet qui n'avancera peut-être plus. Enfin voilà. Dans les Ah oui, ce que je voulais dire aussi, c'est que dans la, dans ce travail, une chose qui, en tout cas pour moi, a été assez difficile, c'était justement de comprendre le fonctionnement de institutionnel même du W3C. Ça, j'ai l'impression d'y être plus ou moins arrivé. Enfin, encore que, il y a plein de choses qui m'échappent encore. Mais il y aura tout un travail à faire de suivi et de documentation, à mon sens, de l'évolution institutionnelle, en fait, de ces arènes dont l'évolution est difficile à suivre parce que souvent informelle. Et pour ça, une piste intéressante, ça peut être de faire de l'observation participante à partir de groupes de travail qui ont un peu une dimension un peu transversale. Donc, par exemple, le W3C Privacy Interest Group, l'accessibility interest group du W3C, ou alors au sein de l'Internet Research Task Force, qui est très lié à l'UETF, le groupe de travail sur les human rights considerations in Internet protocols, qui ont un intérêt parce que, et puis parce que peut-être qu'en sciences humaines et sociales, on est un peu plus capable de les suivre que des groupes de travail sur l'évolution du chiffrement, par exemple, qui sont très intéressants, mais qui demandent pour nous encore un peu de formation et de mise à niveau. Dans le groupe de travail, je vais évoquer nos deux projets phares, peut-être. Donc, on prévoit à faire à suivre d'ici la sortie dans les cinémas, mais sur Cairn et autres, enfin sur le web en tout cas, d'un numéro spécial de la revue Internet Policy Review, qu'on appellerait Controversial Internet Governance, mais qui est un projet encore en cours, donc je ne peux pas encore trop m'avancer. Mais si ça avance bien, bah vous verrez circuler un appel dans les mois à venir. On a déposé une demande de financement pour un projet. Donc là encore, on attend la réponse vers mi-octobre, mais on espère que l'issue sera favorable sur ce qui est appelé dans certains documents de l'IETF et de l'Internet Society, la consolidation d'Internet. Pour le dire rapidement, c'est tous les phénomènes de centralisation, que ce soit de la centralisation de pouvoir économique, centralisation au niveau des infrastructures, etc. etc. Et que nous aimerions mieux comprendre, mieux cartographier, et aussi mieux comprendre la relation qu'il peut y avoir entre ce phénomène et des évolutions réglementaires. Voilà, j'espère avoir rien oublié d'important dans nos projets.
Non, alors si je résume, en gros, que toutes les personnes qui s'intéressent, alors soit aux controverses, soit aux standards, soit aux réseaux humains, soit au numérique, nous rejoignent. Je pense que voilà, ça fait un vaste programme et qu'on a essayé de vous prouver d'abord que, bien évidemment, la notion de gouvernance de l'Internet, elle est plus que jamais intéressante, vivante, qu'elle est un objet de recherche, alors pleinement interdisciplinaire, qu'on a énormément de plaisir à le travailler, à le saisir par différentes méthodes et qu'on va tenter de poursuivre ça au fil des mois. Julien, tu veux rajouter quelque chose, je t'en prie.
Oui, ce qui serait génial, c'est que dans ce groupe de travail, on ait un informaticien ou une informaticienne qui serait intéressé par les questions de gouvernance d'Internet et qui nous aiderait à lire et à comprendre des RFC et des choses comme ça. Parce qu'on essaye de comprendre, mais on se dit qu'on comprend beaucoup moins bien que vous. Donc, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus.
Même plus d'un, on en accepte plusieurs. Voilà, bien sûr. Et maintenant, je vais passer la parole à la salle pour réagir, pour vous poser les questions.
Fabrice Philippot. de l'Institut Minitélécom. Donc moi, je me suis intéressé aussi à la gouvernance d'Internet, si on peut dire, mais du côté infrastructure et du côté matériel plutôt. Et donc, il y a aussi des directives européennes, notamment, hein, qui règlent les déchets, qui règlent la consommation d'énergie, enfin tout ce qui est un petit peu matériel. Et en vous entendant, je me pose deux, et puis en regardant le programme de la journée, je me pose deux questions. Je me dis, parce que j'ai suivi aussi un peu le SMSI, tout ça, et ce qui m'a frappé, c'est que dans le SMSI, les questions écologiques sont totalement absentes, alors que dans les sommets sur le développement durable, les questions numériques, tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que ça n'apparaît pas. Dans la déclaration de Johannesburg, par exemple, j'ai fait une recherche détaillée, le numérique ou digital ou quelque chose comme ça, ça apparaît une fois sur toute la déclaration, enfin sur tout le document final. Hein. C'est-à-dire que tout se passe comme si, finalement, le numérique n'était pas du tout identifié comme quelque chose de pertinent pour la problématique du développement durable. Et inversement, j'ai regardé aussi les documents SMSI et l'écologie, ça n'apparaît pas du tout. Ce qui fait que dans les années 90-2000, il y a eu deux processus qui sont parallèles et qui n'ont pas du tout discuter l'un avec l'autre, et vous me voyez venir, la question c'est est-ce qu'on continue comme ça ou, ou est-ce qu'on fait communiquer. Donc c'est un problème de périmètre. Après, bon, ben, y a toujours des problèmes de périmètre, il faut bien dissocier les choses. Et, ok, mais moi, dans la gouvernance d'Internet, je mettrais ça, d'autant plus que la gouvernance d'Internet, pour moi, c'est aussi l'Internet, je ne sais pas si vous avez vu, hein, mais dans le monde industriel, maintenant on commence à parler d'Internet physique. Et quelque part, c'est pas du tout surprenant parce que même si on parle beaucoup d'Internet au sens de la lecture, hein, la révolution de l'imprimerie, on en parle beaucoup. Et c'est assez curieux. D'ailleurs, je regardais le dernier bouquin de Dominique Boulier là, sur la sociologie du numérique. En fait, quand il parle de numérique, il parle de l'imprimerie. Et en fait, quand il parle de numérique, il parle pas de l'automatique. Or, dans les œuvres fondatrices, notamment celle de Wiener, il y a bien l'automatique. L'automatique, c'est juste toute l'industrie, les robots, c'est toute la chaîne de production mondiale qui est derrière. Donc moi, quand je dis gouvernance d'Internet, je vois tout ça, en fait. C'est-à-dire que je vois les paquebots, les containers, et pas seulement l'imprimerie, en fait. Hein. Et pourquoi ? Bah, parce qu'évidemment, d'un point de vue écologique, c'est surtout ça qui compte. Ça compte en grande partie, les containers qui se promènent. Voilà, donc juste pour, comme on est dans un moment un peu fondateur, voir comment on peut, disons, articuler ces différentes problématiques entre elles.
Merci beaucoup. Alors, je crois que question matérialité et infrastructure, bah, Francesca, notamment par ses travaux, incarne cette dimension. Les câbles, les paquebots, tout ça, ça nous intéresse énormément aussi. Peut-être une réponse là-dessus, une réponse... Non, mais ça n'est pas ironique du tout, c'est parfaitement sincère. Et la réponse, par contre, sur le côté durabilité, sustainability, enfin, écologie, tout ça, c'est intéressant. Allez-y, qui veut répondre ?
Je peux commencer par dire un petit truc. En fait, c'est ce que j'avais observé à peu près à l'époque où il fallait que j'écrive mon projet de recherche pour me présenter au CNRS. C'était qu'en fait, je voulais élargir la problématique de la gouvernance de l'Internet que j'avais regardée pendant ma thèse et avant, et voir comment ça se reflétait dans d'autres contextes qui n'étaient pas le numérique. Et effectivement, le premier exemple qui vient de gouvernance mondiale et mondialisée où on cherche à être multipartie prenante, où on retrouve pas mal du même vocabulaire, c'est bien l'environnement en fait, comme voilà, question complexe où la science et la technologie ont une place prépondérante mais qui est éminemment politique aussi. Donc effectivement, je pense qu'il y a à ce moment-là, il y a ce parallèle qui s'est établi entre ces deux problématiques sans qu'elles se parlent, je suis d'accord. Et je pense que là, grâce notamment aux discussions qui arrive de plus en plus, et là la dimension physique arrive sur les data centers, sur tout ce que représentent les coulisses physiques de notre dernier kilomètre de connexion. J'espère que dans un futur proche, ça va se rapprocher encore plus, pas que dans les discussions de chercheurs, mais aussi dans les politiques publiques, ces deux sujets.
Je me permets juste, en t'entendant, de signaler les travaux, Clément. Tu avais bien écrit que Françoise Massifoléa, justement, une réflexion sur gouvernance d'Internet, gouvernance climatique, il y a quelques années. Donc, c'était déjà aussi, oui, ces préoccupations que vous évoquiez dans un article qui s'intitule... Enfin, tu te souviens, c'était...
Pardon. On avait essayé, justement, d'ouvrir quelques pistes de réflexion, de leçons croisées, justement, de ces enjeux, quoi. Essayer de... faire une petite histoire de la gouvernance du climat et essayer de quelles leçons en tirer pour la gouvernance de l'Internet.
Merci beaucoup. Qui veut encore répondre ?
Alors pareil, en disant qu'un mot. Alors en effet, c'est intéressant de voir qu'au niveau de la gouvernance de l'Internet, il y a assez peu de mentions des questions environnementales. Il y en a un peu plus peut-être maintenant. On peut le voir dans les différentes thématiques et les différents tracks que l'on identifie dans un forum comme le forum sur la gouvernance de l'Internet, justement, que ce soit au niveau français ou au niveau international, et dans ces différentes itérations. C'est une des thématiques peut-être les moins présentes, mais il y a une prise de conscience, je rebondirai sur ce que tu dis, Francesca, croissante du caractère physique d'Internet, même si on a beaucoup parlé de dématérialisation, alors qu'il n'y a pas réellement de dématérialisation, évidemment, due aux infrastructures qui sont un peu partout autour de nous, en dessous, à droite, à gauche, etc., et le cas échéant, au coût d'une simple recherche sur Google en termes écologiques.
Peut-être pour répondre un peu différemment sur cette question aussi, sur quels enseignements on peut tirer de l'exemple de l'environnement. Pour le coup, moi, ce que j'ai essayé de faire en creusant cette analogie, c'est de montrer comment la logique environnementale dans la fabrique des politiques publiques avait pu être subsumée aux intérêts économiques. Et on voit aussi à quel point, aussi dans le numérique, il y a petit à petit les sujets numériques qui sont même complètement captés par Bercy. Enfin, comment dans, on va dire, l'écosystème de production de politique sur ces sujets, les acteurs économiques deviennent de plus en plus importants.
On voit en tout cas que c'est une superbe question et qui va aussi du coup nous amener à en rediscuter. Je peux prendre qu'une question encore avant la pause, donc monsieur, je vous en prie.
Alors, on a entendu beaucoup de très jolies réflexions sur l'archivage du web. J'étais juste un petit peu surpris, je crois que j'ai pas entendu prononcer le nom de NSA, alors que vient de sortir l'autobiographie d'Edward Snowden, et que l'un des traits assez frappants qui discute dans l'autobiographie, qui s'appelle Permanent Record, justement, c'est que probablement le data center créé par la NSA dans le désert de l'Utah dans les années 2000 est la plus grande archive jamais créée dans l'histoire de l'humanité en taille de pure taille de données enregistrées, et qui a été conçue d'emblée pour être capable de prendre une photo de l'intégralité de l'activité du web. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à discuter aussi, peut-être dans vos recherches à venir, d'autant plus que la NSA, on le sait, a joué, évidemment indirectement, a essayé de peser sur les standards des pratiques du web, notamment évidemment en cryptographie, mais qu'on a toujours avec ce genre d'institution un problème méthodologique qui est que on dit que c'est difficile de tenir ces documents sur Facebook, mais je crois que les demandes de communication auprès de la NSA sont encore un petit peu plus compliquées. Alors, on retrouve ce problème habituel de comment étudier en temps réel les activités qui sont couvertes par le secret militaire et pas attendre 200 ans pour faire une histoire qui nous concerne maintenant. Merci.
Oui, j'avais juste. Oui, c'est effectivement un petit miracle que ça n'ait pas été mentionné parce qu'effectivement, personnellement et avec Xenia Moshina, on vient de terminer un projet de recherche sur le chiffrement dans les outils de messagerie sécurisée, comment ça se développe et comment c'est reçu par les usagers, notamment une bonne partie sur la standardisation informelle qui se passe dans ces arènes. Donc, effectivement, c'est parmi nos préoccupations. Et aussi, la dernière partie de cette journée aura plusieurs éléments. De débats qui concernent la surveillance et le capitalisme, la surveillance, notamment dans les deux prochaines interventions. Mais c'est des questions cruciales pour sûr.
Bon, on va garder cette proposition à l'esprit et surtout, on va vous remercier tous pour vos interventions et voilà.